Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le pays se porterait autrement si les Français se plaignaient moins. Nouvelle petite phrase polémique d'Emmanuel Macron qui répondait à des retraités à Colombey-les-Deux-Églises. Le président qui a célébré aujourd'hui le 60e anniversaire de la 5e République. Dans ce journal, les explications d'Alexandra Dubouchereau et le reportage à Colombey de Maxence Lambrecq. Le gouvernement veut fermer la centrale nucléaire de Fessenheim avant la fin du quinquennat en 2022. Et pour la première fois, il ne subordonne plus cette fermeture à la mise en service de l'EPR de Flamanville. Aurélien Saucé, économiste à l'OFCE, sera notre invité pour en parler. La justice française, mal classée dans un rapport d'évaluation du Conseil de l'Europe. La France manque de moyens et de magistrats, selon cette étude européenne. Nous verrons cela avec Anya Vogel. La démission de Gérard Collomb n'est qu'une péripétie. Emmanuel Macron a répété aujourd'hui à Colombey-les-Deux-Églises ce qu'il avait dit hier en Conseil des ministres. Inutile de s'attarder sur le départ de son ministre de l'Intérieur. L'important aujourd'hui, c'était le 60e anniversaire de la 5e République. Emmanuel Macron en a profité pour relancer sa réforme constitutionnelle, dont l'examen avait été interrompu cet été par l'affaire Benalla. Alexandra Dubouchereau, vous avez suivi le discours du président devant le Conseil constitutionnel.
Une pincée d'histoire et une bonne dose de pédagogie. Pendant quelques minutes, Emmanuel Macron a salué, célébré la naissance de la Constitution de la Ve République et puis il est rapidement passé à 2018.
Rester fidèle à nos principes républicains, humanistes, fut le grand souci des constituants de 1958, tout en s'assurant que la France jamais ne deviendrait ingouvernable, qui ne voit la proximité extrême entre les conditions d'émergence de ce texte et les temps que nous vivons.
Le chef de l'État a détaillé le contenu de sa réforme, suppression de la Cour de justice de la République, dose de proportionnelle aux législatives ou encore accélération des procédures.
Soyons lucides, le temps s'accélère. Le temps institutionnel, qui est le rythme auquel l'action publique se meut, ne peut plus suivre le temps réel, qui est celui d'une économie mondialisée, une société d'information en continu, d'impatience sociale aussi. Une mécanique constitutionnelle qui demande plus de 12 mois pour faire voter une loi, qui requiert un trimestre tous les ans pour voter le budget, là où nos grands voisins s'en acquittent en quelques semaines, ne permet plus au gouvernement de produire les résultats que les Français attendent.
Et ces résultats, justement, ils tardent à se concrétiser. Alors face à une situation politique qui apparaît fragilisée, difficile aujourd'hui pour le chef de l'État de prétendre réformer les institutions et de brandir la menace d'un référendum face à un Sénat de droite réfractaire à ce texte. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, il veut miser sur le dialogue avec le Parlement.
Alexandra Dubouchereau, et ce matin, Emmanuel Macron était donc à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au père fondateur de la 5e République, le général de Gaulle, l'occasion d'un petit bain de foule qui risque une nouvelle fois de marquer les esprits. Interpellé par des retraités, le chef de l'État a conseillé aux Français d'arrêter de se plaindre. Le reportage à Colombey de Maxence Lambrecq.
Pas la moindre interpellation sur Gérard Collomb et ce futur remaniement. Lui reconnaît en aparté que c'est une question importante, mais ça viendra en temps voulu, car ici, face au cimetière, l'urgence, c'est de répondre à la grogne des retraités. Il les salue un par un.
Comment ça va ? Vous allez bien ?
À peu près, mais j'ai une petite retraite.
Elle est de combien ? Elle est de combien ?
J'ai 500 euros de retraite.
Alors celle-là est...
Hein ? Alors faites quelque chose.
Mais vous savez, moi je ne donne que l'argent que je prends par ailleurs.
Voilà.
Non mais il faut être raisonnable.
Pédagogie dans la bonne humeur jusqu'à ce que le président relativise toutes ses plaintes.
Le petit-fils du général, tout à l'heure en me faisant visiter la boisserie, m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre.
Ah bon.
Eh bien, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. Non mais, on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Écoutez, on vit de plus en plus vieux dans notre pays, en bonne santé. C'était plus dur en 58 qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus dur.
Voilà comment Emmanuel Macron tente de consoler les retraités et peut-être se consoler lui-même. En 58, en pleine guerre d'Algérie, ce n'était pas des ministres qui chancelaient, mais bien les institutions elles-mêmes. Quand on se regarde, on se désole, résume un élu. Quand on se compare, on se console.
Maxence Lambrecq à Colombey. Ce soir, Marine Le Pen dénonce les propos d'Emmanuel Macron. Ceux qui se plaignent ne le font pas par plaisir, mais parce qu'ils sont victimes de votre politique, a tweeté la patronne du Front National. Le socialiste Olivier Faure Fort a aussi répliqué au chef de l'État. Les retraités peuvent se plaindre. Ils payent aujourd'hui les cadeaux fiscaux faits aux plus riches de notre pays, estime le premier secrétaire du PS. Quant à Gérard Collomb, il continue de prendre ses distances avec Emmanuel Macron. Dans une interview à LCI, l'ex-ministre de l'Intérieur explique ce soir qu'il ne se présentera pas sous les couleurs de La République En Marche au municipal à Lyon en 2020. Il sera candidat sous une étiquette locale autour d'un projet pour rassembler. Le gouvernement veut fermer la centrale nucléaire de Fessenheim avant la fin du quinquennat en 2022. Le nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy, l'a assuré ce matin sur l'antenne de France Info. Avec une précision importante, la fermeture de la plus vieille centrale de France ne serait plus subordonnée à la mise en service de l'EPR de Flamanville. Car selon François de Rugy, EDF n'est pas capable de donner une date pour cette mise en service. Invité de ce journal, Aurélien Saucé, économiste à l'OFC, en charge du pôle environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
Aurélien Saucé, faut-il voir dans les propos de François de Rugy une remise en cause de l'EPR ?
Non, en fait, c'est simplement une reconnaissance de la part du ministre que les retards pris par l'EPR vont se prolonger. Et donc là, on avait une date de mise en service qui initialement était prévue pour 2017. Et là, d'après les dernières informations qui ont été rendues publiques, ça serait repoussé même à 2021. Donc c'est simplement entériner le fait que l'EPR ne sera pas prêt avant presque la fin du quinquennat.
Alors comment peut-on expliquer ces retards successifs dans le chantier de l'EPR ? EDF ne maîtrise pas entièrement la technologie ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la première fois qu'on reconstruisait une centrale en France depuis bien longtemps, puisqu'en fait, le dernier chantier de réacteurs pour une centrale commerciale en France datait du tout début des années 2000. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis en œuvre ce savoir-faire. Par ailleurs, c'était une technologie qui était nouvelle, donc il y avait l'effet premier de série où il y a toujours des retards qui sont pris. Et ensuite, il y a aussi le fait que les normes de sécurité ont été considérablement renforcées par rapport à la précédente génération de centrales, et donc notamment les tolérances sur les malfaçons qui pouvaient exister dans la cuve et dans d'autres dispositifs autour de la centrale, qui auraient été acceptables par le passé, ne le sont plus aujourd'hui. Et donc du coup, ça a créé évidemment des retards successifs. Après, il y a quand même, il faut observer un dépassement du budget qui est quand même très remarquable, puisque là on va finir à pas loin de 10 milliards d'euros, alors qu'on était sur un budget 5 fois inférieur initialement prévu il y a un peu plus de 10 ans.
Mais à force de décalage de la mise en service, est-ce que la technologie ne risque pas de devenir obsolète finalement ?
Alors ça effectivement c'est un risque qu'on peut redouter. Si on regarde les chantiers d'EPR qui ont été mis en place, il y en a un en Finlande, qui arrive prochainement à son terme et qui n'est toujours pas totalement terminé. Il y a un en Angleterre qui a été initié. Et en fait, les seuls EPR, donc il y a celui de Flamanville qui a les retards qu'on connaît, et le seul EPR qui finalement a été construit, mené à son terme et mis en route, c'est les deux qui ont été construits en Chine. Et sur la sphère chinoise, pour le coup, il y a un programme d'investissement nucléaire qui est massif, avec un développement d'un modèle de technologie chinoise sur place par l'industrie nucléaire chinoise. Et là, effectivement, on peut avoir la crainte que la technologie qui était présentée comme un fleuron de l'industrie française soit en réalité dépassée à la fois en coût et en performance par ses concurrents chinois.
Et donc, cela signifie qu'il faudrait peut-être remettre en cause, finalement, le chantier de Flamanville ?
Alors là, il y a un problème de coût engagé. Là, ce serait sans doute pas pertinent, vu les sommes qui ont été investies et le temps qui a été consacré, de totalement abandonner le chantier de Flamanville. Ça semble pas ni pertinent, ni très raisonnable. En revanche, ça peut nous inviter à nous interroger sur la stratégie nucléaire de la France, et notamment la compétitivité de l'énergie nucléaire, dans un monde où l'énergie nucléaire a plutôt tendance à se renchérir de génération en génération, au fur et à mesure justement que nos exigences en termes de sécurité augmentent, contre d'autres sources d'énergie alternative, comme par exemple les renouvelables, qui, elles, au contraire, sont plutôt sur des courbes décroissantes, où, d'année en année, l'éolien, le solaire, pour ne citer que, sont de moins en moins chers au kilowatt installé et au kilowattheure produit.
Aurélien Saucé, le fait que la fermeture de Fessenheim ne soit plus conditionnée à l'ouverture de Flamanville, c'est un tournant dans la politique nucléaire du gouvernement ?
Alors, en tout cas, c'est un signal fort envoyé à EDF, puisque ce qu'il faut bien voir derrière l'enjeu de Fessenheim, c'est qu'il y a l'idée que les centrales, qui initialement les centrales françaises avaient été construites pour une durée d'exploitation de 40 ans, et EDF a le projet de prolonger la durée de vie de ces centrales à l'aide d'un grand chantier de remise à niveau et de maintenance de ces centrales qui s'appelle le grand carénage, et qui permettrait d'augmenter la durée de vie d'exploitation de ces centrales de 10 à 20 ans, conditionnellement à l'autorisation d'exploitation de l'autorité de sûreté nucléaire, bien entendu. Donc du coup, La plus ancienne de ces centrales qui aurait pu être prolongée, c'est Fessenheim, puisque c'est la plus vieille du parc français. Et là, en décidant de fermer la centrale, le gouvernement donne un signal à EDF que l'ensemble du parc n'a pas vocation nécessairement à être prolongé de 10 à 20 ans supplémentaires et que donc on peut considérer ça comme un signal fort que peut-être la part du nucléaire va commencer à réduire dans le mix électrique français et que donc l'engagement de viser une part à 50% du nucléaire, alors on n'a pas encore la date à laquelle on souhaiterait atteindre cet objectif, mais en tout cas, cet objectif n'est peut-être pas juste une promesse, mais pourrait être quelque chose qui serait concrètement à atteindre dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Aurélien Saucé, le réseau électrique français peut survivre à une fermeture de Fessenheim avant la mise en service de l'EPR de Flamanville ?
Alors, on est plutôt sur une tendance baissière sur la consommation d'électricité en France depuis plusieurs années. Donc, a priori, la réponse à cette question serait plutôt positive. On sait que l'hiver dernier, il y avait eu une mise en maintenance de près du tiers du parc nucléaire français. Mais bon, même avec autant de réacteurs hors ligne, il n'y a pas eu de coupure de courant. Il y a eu effectivement un petit débat dans les médias où on se fait plaisir à se faire peur. Mais ça n'a posé aucun problème. Donc a priori, non, ça menace absolument pas la stabilité du réseau français.
Et d'une façon générale, l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50% de l'électricité française contre environ 75% aujourd'hui, cet objectif vous semble-t-il tenable ?
Il le sera si on investit dans les modes de production électrique alternatifs. Ce qui est prévu lorsque, dans la loi sur la transition énergétique, cet objectif a été mis en avant pour la première fois, il y avait en complément, évidemment, des objectifs d'investissement dans l'éolien, dans le solaire. Et donc, si on réalise ces investissements en parallèle, il n'y a aucun problème pour atteindre cet objectif. Mais évidemment, il faut faire les deux.
Aurélien Saucé de l'Observatoire français des conjonctures économiques, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En matière de justice, la France fait partie des élèves médiocres de la classe européenne. Voilà le constat d'un rapport publié aujourd'hui par la CEPEJ, un organe du Conseil de l'Europe. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice évalue tous les deux ans les différents systèmes judiciaires des États membres du Conseil. Et la France a quelques progrès à faire, Agnès Vogel.
66 euros par habitant et par an, c'est ce que dépense la France pour son système judiciaire. Et même si ce chiffre est en légère augmentation, nous restons parmi les plus mal classés des pays européens de l'Ouest, derrière l'Espagne, le Luxembourg et surtout la Suisse, 215 euros. Stéphane Leyenberger, secrétaire exécutif de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice.
On peut dire qu'il y a encore des vraies marges de progression pour la France, notamment par rapport à l'Allemagne, même par rapport à l'Italie. La situation du ministère public est relativement préoccupante. Il y a un faible nombre de procureurs dans notre pays qui reçoivent un nombre très important d'affaires et qui sont compétents dans un spectre particulièrement large. Et ce qui fait que le ministère public français est sans doute l'un des plus chargés, si ce n'est le plus chargé en Europe.
Parmi les bons points, la France est le seul pays, avec le Luxembourg et l'Espagne, à offrir encore un accès gratuit aux tribunaux. Partout ailleurs, les frais et taxes augmentent. Le système d'aide judiciaire fonctionne bien, même si l'on note une érosion des moyens, d'où cette recommandation. La France mérite un effort supplémentaire d'investissement en moyens budgétaires et humain.
Agnès Vogel à Strasbourg. Le ton monte à nouveau entre les Occidentaux et la Russie. Plusieurs pays accusent Moscou de mener des cyberattaques contre leurs intérêts. Les Pays-Bas ont riposté aujourd'hui en expulsant 4 individus présentés comme des espions russes par le gouvernement néerlandais. Pierre Benazé.
Le 10 avril dernier, 4 Russes munis de passeports diplomatiques atterrissent à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Ils descendent dans un hôtel de La Haye, proche du siège de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est dans cet hôtel qu'ils seront arrêtés sur instruction du MIVD, les services de contre-espionnage bataves. Ils surveillaient les 4 hommes depuis leur atterrissage. Expulsés vers la Russie, ils sont accusés, je cite, de tentatives d'espionnage à distance rapprochée, selon la ministre néerlandaise de la Défense. La voiture des 4 hommes était stationnée en face du siège de l'OIAC, qui à ce moment-là se penchait sur le poison Novichok utilisé à Salisbury contre les Skripal. Ce véhicule était équipé d'appareils électroniques destinés à capter le réseau Wi-Fi de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour tenter de pénétrer dans ses serveurs informatiques. Les Pays-Bas affirment avoir retrouvé dans le véhicule un reçu de taxi pour un trajet vers un aéroport moscovite. Au départ du siège du GRU, les services de renseignement de l'armée russe. Un ordinateur en leur possession contenait par ailleurs des informations sur le vol MH17 abattu au-dessus de l'Ukraine. Ces révélations ont entraîné des réactions en cascade. L'OTAN dénonce à nouveau les immixtions russes dans les campagnes électorales des pays alliés, l'usage de la force contre les pays voisins et de vastes campagnes de désinformation. Le Royaume-Uni accuse formellement le GRU d'avoir empoisonné les Skripal et le Canada estime de son côté que ces ces mêmes services ont piraté son agence de lutte contre le dopage.
Pierre Benazé à Bruxelles, et comme à son habitude, la Russie nie toute implication dans ces cyberattaques. Les accusations néerlandaises sont un acte de propagande dirigé contre notre pays, a réagi le ministère russe des Affaires étrangères. La météo demain, ensoleillée presque partout après dissipation des brouillards matinaux, seule la Corse connaîtra un temps perturbé et orageux. Les températures minimales seront contrastées, 2 à 13 degrés sur la moitié nord, 9 à 20 degrés au sud. Les maximales seront supérieures aux normales saisonnières, de 20 à 30 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.